Traces de lumière, Christian Malaplate.
Radio FM Plus 91 FM Montpellier présente Traces de lumière, une émission réalisée par Christian Malaplate avec Yann à la technique, avec l'aimable participation de Viviane Nou. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à Annie Ernaux, prix Nobel de littérature en 2022. Annie Ernaux, née Duchesne, a grandi en Normandie, à Lillebonne, où elle est née en 1940, puis à Yvetot, où ses parents ont déménagé quelques années plus tard pour tenir un café-épicerie. Élève à l'école privée catholique, elle côtoie des filles de milieux plus aisés que le sien et fait l'expérience de la honte sociale. En 1958, âgée de 18 ans, elle part pour la première fois seule, sans ses parents, travailler dans une colonie de vacances. Là, elle fera l'expérience de la sexualité et de la vie en collectivité. Expérience qu'elle livrera dans Mémoire de fille. Dans ce même livre, elle évoque aussi son séjour à Finchley, dans la banlieue de Londres, comme fille au pair en 1960, avant qu'elle ne décide d'étudier les lettres à l'université de Rouen, abandonnant la formation entamée pour devenir institutrice. C'est à cette époque qu'elle écrit son premier manuscrit, qui n'a jamais été publié. Les années qui suivent sont celles du mariage, de la réussite au CAPES, puis à l'agrégation, de la naissance de ses deux fils, des années passées à Nessy, en Haute-Savoie, où elle est professeure dans le secondaire, et de la mort de son père en 1967, alors qu'elle rend visite à ses parents en Normandie. En 1974, Annie Ernaux publie chez Gallimard son premier livre « Les armoires vides », qui dépeint sous une forme romancée l'avortement clandestin qu'elle a subi en 1964, ainsi que sa trajectoire sociale de transfuge de classe. Et en 1977, elle déménage en région parisienne avec sa famille, quitte l'enseignement secondaire et devient professeur au centre d'enseignement à distance. En 1983, elle publie « La Place », un récit retraçant la vie de son père. Couronné du prix Renaudot, ce livre attire un large lectorat. Après son divorce, elle continue à vivre dans la maison de Cergy, où elle réside encore. Dans les années 2000, elle quitte ses fonctions d'enseignante et signe Les Années, texte qui est perçu par beaucoup comme l'accomplissement de son œuvre, tant sur le contenu que sur la forme d'autobiographie collective. Annie Ernaux a reçu plusieurs prix pour l'ensemble de son œuvre. En octobre 2022, elle reçoit le prix Nobel de littérature.
Pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle révèle les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle.
Thank you.
Depuis l'apparition de son premier livre, Les armoires vides, en 1974, Annie Ernaux n'a cessé d'explorer à travers l'écriture l'expérience vécue. Son expérience, mais aussi celle de sa génération, de ses parents, des femmes, des anonymes, des oubliés, des autres. Son écriture s'oriente sur plusieurs axes qui se recoupent au fil du temps et des livres. L'expérience du corps et de la sexualité, les relations interpersonnelles, familiales, amoureuses, les trajectoires et inégalités sociales, l'éducation, le temps et la mémoire, et l'écriture, véritable fil conducteur qui relie entre eux ces aspects. Toujours dans les livres d'Annie Ernaux, les expériences les plus personnelles, voire intimes, sont chargées d'une dimension collective, sociologique, qu'il s'agisse de l'expérience du deuil, de la honte sociale, de la découverte de la sexualité, de la passion amoureuse, d'un avortement clandestin, de la traversée de la maladie ou de la perception du temps. Après avoir publié des textes d'inspiration autobiographique, mais présentés comme romans, par exemple « Les armoires vides »,« Ce qu'ils disent ou rien »,« La femme gelée », elle écrit avec la place un texte qui s'est détaché de la fiction pour creuser les possibilités de dire l'expérience et le réel. Ce faisant, elle a travaillé sur des formes narratives qui constituent de nouvelles directions dans l'écriture de soi. Ces textes auto-socio-biographiques, La place, une femme, la honte, explorent sa vie, celle de ses parents et le milieu dans lequel elle a grandi, tandis que l'autobiographie collective, comme dans les années, dépeint l'histoire sociale et culturelle de la France, des années 1940 aux années 2000. Ces autres textes incluent des mémoires qui allient récits d'une expérience marquante et réflexion sur l'écriture de cette expérience, comme dans Passion simple, L'événement, L'occupation, Mémoire de fille, Le jeune homme. Textes qui mêlent autobiographie et photographie, l'usage de la photo, le photojournal d'écrire la vérité, la vie et l'être à une absence, sa sœur décédée quelques années avant sa naissance, dans L'autre fille. Annie Ernaux a également publié des journaux intimes, espace de notation de l'expérience vécue, Je ne suis pas sorti de ma nuit, Se perdre, ainsi que des journaux estimes, constitués de fragments de micro-événements observés dans les lieux publics, les transports et les supermarchés, Journal du dehors, La vie extérieure, Regarde les lumières, Mon amour. Enfin, elle se penche sur le processus d'écriture dans les extraits publiés de son journal d'écriture, L'atelier noir, dans des entretiens avec un autre écrivain, L'écriture comme un couteau, et en faisant retour non seulement sur son écriture, mais aussi sur les lieux importants de sa vie. Thank you.
Dans Passion simple, Annie Ernaux raconte la relation passionnelle qu'elle a vécue pendant quelques mois avec un homme marié et vivant à l'étranger. Pendant de longs mois, Annie Ernaux vit une relation passionnelle avec A. Tout dans sa vie tourne alors autour de cet homme étranger et marié. Peu de temps après la fin de cette histoire, comme si elle pouvait ainsi la faire durer encore un peu, l'auteur prend la plume pour raconter l'attente, les coups de téléphone, les moments partagés, la perte de l'être aimé. Passion simple est un livre magnifique sur la passion amoureuse, mais aussi sur le temps si particulier de l'écriture. Dans la collection Écoute et lire des éditions Gallimard, Passion simple d'Annie Ernaux, dit par Juliette Binoche, qui interprète avec sensibilité cette œuvre importante d'Annie Ernaux. Voici un extrait.
Les contraintes que m'imposait sa situation d'homme marié, ne pas lui téléphoner, ne pas lui envoyer de lettres, ne pas lui faire des cadeaux qu'il justifierait difficilement, dépendre constamment de ses possibilités de se libérer, ne me révoltait pas. Je lui remettais les lettres que je lui écrivais au moment où il partait de chez moi. Soupçonné qu'une fois lues, il les jetait peut-être en petits morceaux sur l'autoroute, ne m'empêchait pas de continuer à lui écrire. Je prenais garde à ne laisser aucun signe de moi sur ses vêtements, et je ne lui faisais pas de marque sur la peau. Autant que le désir de lui éviter toute scène avec sa femme, il y avait celui de ne pas encourir de sa part une rancune qui l'aurait conduit à me quitter. Pour cette même raison, j'évitais de le rencontrer dans les endroits où elle l'accompagnait. J'avais peur de trahir devant elle par un geste spontané, caresser la nuque de A, arranger un détail de sa tenue, le lien que nous avions. Je ne voulais pas non plus souffrir inutilement en me représentant, comme chaque fois que je la voyais, A, lui faisant l'amour, que je la juge insignifiante, qu'il le fasse peut-être parce qu'il l'avait sous la main, ne pouvait rien contre la torture d'une telle vision. Ces contraintes même étaient source d'attente et de désir. Comme il m'appelait toujours depuis les cabines téléphoniques, au fonctionnement imprévisible, quand je décrochais, il n'y avait souvent personne au bout du fil. À la longue, j'ai appris que ce faux appel en précédait un vrai. Au plus, un quart d'heure après, le temps de trouver un appareil en état de marche. Ce premier appel muet était le signe avant-coureur de sa voix. Une rare promesse certaine de bonheur, et l'intervalle qui me séparait de l'appel suivant, où il dirait mon prénom et « on peut se voir », l'un des plus beaux moments qui soit. Devant la télévision le soir, je me demandais s'il était en train de regarder la même émission ou le même film que moi, surtout si le sujet en était l'amour ou l'érotisme, si le scénario avait une correspondance avec notre situation. J'imaginais alors qu'il voyait la femme d'à côté, en nous substituant au personnage. S'il me disait avoir vu effectivement ce film, j'avais tendance à croire qu'il l'avait choisi ce soir-là à cause de nous, et que représenter à l'écran notre histoire devait lui paraître plus belle, en tout cas justifiée. Naturellement, j'écartais vite l'idée que notre lien pouvait, à l'inverse, lui sembler dangereux, puisqu'au cinéma, régulièrement, toutes les passions hors mariage finissent mal. Note, Loulou de Piala, Trop belle pour toi de Blier, etc. Quelquefois, je me disais qu'il passait peut-être toute une journée sans penser une seconde à moi. Je le voyais se lever, prendre son café, parler, rire, comme si je n'existais pas. Ce décalage avec ma propre obsession me remplissait d'étonnement. Comment était-ce possible? Mais lui-même aurait été stupéfait d'apprendre qu'il ne quittait pas ma tête du matin au soir. Il n'y avait pas de raison de trouver plus juste mon attitude ou la sienne. En un sens, j'avais plus de chance que lui. Quand je marchais dans Paris en voyant défiler sur les boulevards de grosses voitures conduites par un homme seul, à l'allure de cadres supérieurs affairés, je me rendais compte que A n'était ni plus ni moins que l'un d'entre eux. D'abord soucieux de sa carrière, avec des accès d'érotisme, peut-être d'amour, pour une femme nouvelle tous les 2 ou 3 ans. Cette découverte me délivrait. Je décidai de ne plus le voir. J'étais sûre qu'il m'était devenu aussi anonyme et sans intérêt que ses occupants clean de BMW ou de R25. Mais tout en marchant, je regardais dans les vitrines, les robes et la lingerie comme en prévision d'un prochain rendez-vous. Ces moments de distanciation éphémère venaient de l'extérieur. Je ne les recherchais pas. Au contraire, j'évitais les occasions qui pouvaient m'arracher à mon obsession, lecture, sortie et toute activité dont j'avais le goût avant. J'aspirais au désœuvrement complet. J'ai refusé avec violence une charge supplémentaire de travail que mon directeur me réclamait, l'insultant presque au téléphone. Il me semblait que j'étais dans mon bon droit, en m'opposant à ce qui m'empêchait de m'adonner sans limite aux sensations et aux récits imaginaires de ma passion. Dans le RER, le métro, les salles d'attente, tous les lieux où il est autorisé de ne se livrer à aucune occupation, sitôt assise, j'entrais dans une rêverie de A. À la seconde juste où je tombais dans cet état, il se produisait dans ma tête un spasme de bonheur. J'avais l'impression de m'abandonner à un plaisir physique, comme si le cerveau, sous l'afflux répété des mêmes images, des mêmes souvenirs, pouvait jouir, qu'il soit un organe sexuel pareil aux autres. Je ne ressens naturellement aucune honte à noter ces choses, à cause du délai qui sépare le moment où elles s'écrivent, où je suis seule à les voir, de celui où elles seront lues par des gens et qui, j'ai l'impression, n'arrivera jamais. D'ici là, je peux avoir un accident, mourir. Il peut survenir une guerre ou la révolution. C'est à cause de ce délai que je peux écrire actuellement. À peu près comme à 16 ans, je m'exposais au soleil brûlant une journée entière. À 20, faisais l'amour sans contraceptif, sans réfléchir aux suites. C'est donc par erreur qu'on assimile celui qui écrit sur sa vie à un exhibitionniste, puisque ce dernier n'a qu'un désir, se montrer et être vu dans le même instant. Au printemps, mon attente est devenue continuelle. Une chaleur précoce s'est installée dès le début du mois de mai. Les robes d'été apparaissaient dans les rues, les terrasses des cafés étaient pleines. On entendait sans arrêt une danse exotique murmurée par une femme à la voix étranglée, la lambada. Tout signifiait des possibilités nouvelles de plaisir, dont j'attribuais à A le projet de profiter en dehors de moi. Son poste, ses fonctions en France, me semblait très élevé, susceptible d'attirer l'admiration de toutes les femmes. Je me dépréciais en proportion inverse, ne me trouvant aucun intérêt qui puisse le retenir auprès de moi. Quand j'allais à Paris, dans quelque quartier que ce soit, je m'attendais toujours à le voir passer en voiture avec une femme à côté de lui. Je marchais très droite, dans une attitude par avance orgueilleusement indifférente à cette rencontre. Que celle-ci, évidemment, ne se produise jamais me décevait presque plus. Je déambulais en sueur sous un regard imaginaire boulevard des Italiens, pendant qu'il était ailleurs, insaisissable. La vision de lui roulant vitre baissée avec la radiocassette à fond, en direction du parc de Sceaux ou du bois de Vincennes, me poursuivait. Un jour, j'ai commencé de lire dans un hebdomadaire de télévision un reportage sur une troupe de danseurs venus de Cuba, en tournée à Paris. L'auteur insistait sur la sensualité et la liberté des Cubaines. Une photo montrait la danseuse interviewée, grande, avec des cheveux noirs, ses jambes longues, découvertes. Au fur et à mesure que j'avançais dans ma lecture, mon pressentiment grandissait. À la fin, j'étais sûre que A, qui connaissait Cuba, avait rencontré la danseuse de la photo. Je le voyais avec elle dans une chambre d'hôtel, et rien n'aurait pu à ce moment me convaincre que cette scène était invraisemblable. Au contraire, c'est l'hypothèse qu'elle n'avait pas eu lieu qui me semblait stupide et inimaginable. Lorsqu'il téléphonait pour qu'on se voie, son appel cent fois espéré ne changeait rien. Je restais dans la même tension douloureuse qu'avant. J'étais entrée dans un état où même la réalité de sa voix n'arrivait pas à me rendre heureuse. Tout était manque sans fin, sauf le moment où nous étions ensemble à faire l'amour. Et encore, j'avais la hantise du moment qui suivrait, où il serait reparti. Je vivais le plaisir comme une future douleur. Sans cesse, le désir de rompre, pour ne plus être à la merci d'un appel, ne plus souffrir, et aussitôt la représentation de ce que cela supposait, à la minute même de la rupture, une suite de jours sans rien attendre. Je préférais continuer à n'importe quel prix. Qu'il ait une autre femme, plusieurs, c'est-à-dire une souffrance encore plus grande que celle pour laquelle je voulais le quitter. Mais à côté du néant entrevu, ma situation présente me paraissait heureuse, ma jalousie une sorte de privilège fragile dont j'aurais été folle de désirer la fin, puisque celle-ci viendrait bien un jour en dehors de ma volonté, quand il partirait ou me quitterait, lui. Je fuyais les occasions de le rencontrer à l'extérieur au milieu des gens, ne supportant pas de le voir pour seulement le voir. Ainsi, je ne suis pas allée à une inauguration où il était invité, obsédée cependant toute la soirée par cette image de lui, souriant et empressé auprès d'une femme, de la même manière qu'il avait été avec moi quand nous avions fait connaissance. Ensuite, quelqu'un m'avait dit qu'à cette soirée, il y avait trois pelés intondus. J'étais soulagée, me répétant cette expression avec plaisir, comme s'il existait un rapport entre l'atmosphère d'une réception, le nombre de femmes invitées et ce qui ne dépendait que du hasard de la rencontre. Alors, une seule femme suffisait, que de son désir à lui ou non de la draguer. Je cherchais à être au courant de ses loisirs, de ses sorties pendant le week-end. Je pensais, en ce moment, il est dans la forêt de Fontainebleau, il fait du jogging, il est sur la route de Deauville, sur la plage à côté de sa femme, etc. Sa voix me rassurait. J'avais l'impression que de pouvoir le situer dans tel endroit, à tel moment, me prémunissait contre une infidélité. Croyance que je rapproche de celle aussi tenace qui consiste à imaginer que de connaître le lieu de la boume ou des vacances de mes fils suffisait à les garantir d'un accident, de la drogue ou de la noyade. Je ne voulais pas partir en vacances cet été-là. Me réveiller le matin dans une chambre d'hôtel en voyant devant moi une journée à vivre sans aucun appel de lui à attendre. Mais renoncer à partir, c'était lui avouer plus clairement ma passion que de lui dire « je suis folle de toi ». Un jour où j'étais en proie au désir de rompre, j'ai décidé à la place de prendre des réservations de train et d'hôtel pour dans 2 mois à Florence. J'étais très satisfaite de cette forme de rupture où je n'étais pas obligée de le quitter. J'ai vu arriver le moment du départ comme celui d'un examen auquel je me serais inscrite longtemps à l'avance et que je n'aurais pas préparé, avec accablement et sentiment d'inutilité. Sur la couchette du wagon-lit, je n'arrêtais pas de me représenter dans ce même train revenant cette fois vers Paris 8 jours plus tard. Perspective d'un bonheur inouï, presque impossible. J'allais peut-être mourir à Florence, je ne le reverrai jamais. Qui augmentait mon horreur de m'éloigner de plus en plus de Paris, me faisait sentir l'intervalle entre l'aller et le retour comme une durée interminable et atroce. Le pire était de ne pouvoir demeurer dans la chambre d'hôtel toute la journée, à attendre le train qui me ramènerait vers Paris. Il fallait justifier le voyage en me livrant aux visites culturelles, aux promenades, dont j'ai l'habitude en vacances. Je marchais des heures dans l'Oltrarno, le jardin Boboli, jusqu'à la Piazza San Michelangelo, San Miniato. J'entrais dans toutes les églises ouvertes, faisais 3 vœux, à cause de la croyance que l'un des 3 sera exaucé. Ils avaient tous trait à A, naturellement, et je restais assise dans la fraîcheur et le silence, à poursuivre l'un des multiples scénarios, un séjour ensemble à Florence, nos retrouvailles dans 10 ans sur un aéroport, etc., qui me venaient continuellement partout, du matin au soir. Je ne comprenais pas que des gens cherchent dans le guide la date, l'explication de chaque tableau, toutes choses sans relation avec leur propre vie. L'usage que je faisais des œuvres d'art était seulement passionnel. Je retournais dans l'église de l'Abbadia parce que c'était là que Dante avait rencontré Béatrice. Les fresques à demi effacées de Santa Croce me bouleversaient en raison de mon histoire, qui deviendrait un jour comme elle, des lambeaux décolorés dans sa mémoire et dans la mienne. Dans les musées, je ne voyais que les représentations de l'amour. J'étais attirée par les statues d'hommes nus. En elles, je retrouvais la forme des épaules de A, de son ventre, de son sexe, et surtout le léger sillon qui suit la courbe intérieure de la hanche jusqu'au creux de l'aine. Je n'arrivais pas à m'éloigner du David de Michel-Ange, étonnée jusqu'à la douleur que ce soit un homme et non une femme qui ait manifesté sublimement la beauté du corps masculin. Même si cela s'expliquait par la condition dominée des femmes, il me semblait que quelque chose était manqué pour toujours. Note. De la même façon, j'ai regretté qu'il n'existe pas, peint par une femme, un tableau provoquant autant d'émotions indicibles que la toile de Courbet, montrant au premier plan le sexe offert d'une femme couchée, au visage invisible, et qui a pour titre l'origine du monde. Dans le train, en revenant, j'avais l'impression d'avoir écrit littéralement ma passion dans Florence, en marchant dans les rues, en parcourant les musées, obsédée par A, voyant tout avec lui, mangeant et dormant avec lui dans cet hôtel bruyant au bord de l'Arno. Il suffirait que je revienne pour lire cette histoire d'une femme aimant un homme qui était la mienne. Ces 8 jours seuls, sans parler, sauf au serveur de restaurant, possédée par l'image de A, jusqu'à être stupéfaite que des dragueurs m'accostent, n'auraient-ils pas dû voir celle-ci en transparence dans mon corps, m'apparaissait finalement comme une épreuve qui perfectionnait encore l'amour. Une sorte de dépense supplémentaire, cette fois de l'imagination et du désir de l'absence.
Vient de paraître dans la collection Écoutez-lire aux éditions Gallimard tout un ensemble d'œuvres d'Annie Ernaux.
Donc Annie Ernaux, La femme gelée, lue par Elsa Lepoivre de la Comédie française, environ 4 heures d'écoute. Elle a 30 ans, elle est professeure, mariée à un cadre, mère de 2 enfants, elle habite un appartement agréable. Pourtant, c'est une femme gelée. C'est-à-dire que, comme des milliers d'autres femmes, elle a senti l'élan, la curiosité, toute une forme heureuse présente en elle se figer au fil des jours. Entre les courses, le dîner à préparer, le bain des enfants, son travail d'enseignante, tout ce que l'on dit être la condition normale d'une femme. Avec tout son talent, Elsa Lepoivre de la Comédie française donne à entendre la voix brûlante de ce magnifique récit. Annie Ernaux, La honte, lue par Noémie Wolfsky, environ 2 heures d'écoute. Annie Ernaux écrit « J'ai toujours eu envie d'écrire des livres, dont il me soit ensuite impossible de parler, qui rendent le regard d'autrui insoutenable. Mais quelle honte pourrait m'apporter l'écriture d'un livre qui soit à la hauteur de ce que j'ai éprouvé dans ma 12e année ?» Noémie Wolfsky s'empare avec justesse de ce texte fort et fondamental de l'œuvre d'Annie Ernaux. Dans la collection Folio vient de paraître L'autre fille d'Annie Ernaux. Elle écrit « Car il a bien fallu que je me débrouille avec cette mystérieuse incohérence. Toi, la bonne fille, la petite sainte, tu n'as pas été sauvée. Moi, le démon, j'étais vivante, plus que vivante, miraculée. Il fallait donc que tu meures à 6 ans pour que je vienne au monde et que je sois sauvée. »
Alors, rappel.
Annie Ernaux, La femme gelée, lue par Elsa Lepoivre. De Annie Ernaux, La honte, lue par Noémie Wolfsky. Et dans la collection Folio, L'autre fille.
Thank you.
Isabelle Gaudin, membre de la Société des poètes français, nous présente un poète italien de grand talent qui vient de publier aux éditions Les Poètes français.
Vient de paraître aux éditions Les Poètes français, Vision et les racines de Renato Villani, poète italien, professeur de français dans la région des Pouilles. Ce recueil a obtenu le prix Arthur Rimbaud 2022, décerné par la Société des poètes français. Bonjour Renato Villani.
Bonjour.
Dans votre recueil, vous décrivez toutes les passions qui habitent votre cœur.
Oui, en effet, c'est ça. Toutes mes passions trouvent leur expression la plus intime dans ce recueil, où mon inspiration et mon imagination sont fondées sur ma perception suprasensorielle, qui fait de moi probablement un poète visionnaire en contact direct avec l'univers. En effet, d'après moi, souvent le poète est capable d'une vision qui unit l'homme et l'univers, et par son art, il découvre les vérités cachées et les relations existantes entre l'homme et la nature.
Le titre de votre recueil, « Vision et les racines », met bien en évidence vos mots qui s'ajuste avec art et tendresse, votre ressenti de poète. Que représente pour vous la poésie?
Je crois que la poésie se meut entre vision et réalité, sur les ailes de la perception ou de la fantaisie. Elle se meut à la découverte de l'invisible, qui d'après moi existe à côté du visible et qui se cache à la plupart des gens. Vous savez, la poésie est ainsi un voyage constant, à travers la réalité, mais aussi à travers des lieux imaginaires et des mondes lointains. Le but de ce voyage est donc de découvrir des vérités totales, complètes, des vérités qui s'intègrent avec la vérité telle que nous la connaissons. Mais à la fin du parcours, la poésie revient au point de départ, aux racines de l'existence du poète et de son expérience. Dans ce voyage, la réalité, l'imagination et la perception suprasensorielle existent dans une fonction mutuelle, éternelle, et se révèlent comme énergie active nécessaire à la vitalité de l'écriture poétique, qui coïncide avec le monde intérieur de l'auteur.
Maintenant, nous allons vous écouter nous dire quelques poèmes extraits de votre recueil « Vision et les racines » paru aux éditions Les Poètes français.
Elle et racines. Ton baiser suspendu sur cette courte éternité enferme le son de mon âme dans un amour sans limite qui se renouvelle chaque jour comme un miracle imprévu. Fragrance de ciel, comme une vague sur les rives de mon cœur, ton visage lisse mon passé et me ramène à l'ancienne caresse, fidèle amante secrète. La lumière rencontre mes lèvres, s'éloigne du temps quand elle s'allonge sur ton corps nu et tremblant au sommet de son infini. Le vent a écrit mon essence en caressant le manuscrit de la vie, libre de cette illusion éphémère, larmoyant sur les cils d'un adieu. Et les racines prennent mes mains comme des ustensiles précieux, animés par des fables et des mythes, pour éterniser l'instant d'un autre baiser au goût de mer, s'élevant dans le ciel où de petites vagues versent sur moi la douceur incessante d'une joie naïve. Quand tu es loin dans les nuits d'hiver, l'été de mon cœur saigne, égaré dans l'ombre sans sommeil. Depuis un jardin d'astres sans nom, une étoile émue descend du firmament, éclaire mon âme et ouvre les crins de ma mémoire, où je retrouve ton sourire et le désir de tes yeux. Un frémissement resplendit et m'enchante, déployant les voiles de ma pensée et ses ondes en crues comme la rivière impétueuse de mon amour. Un vent léger caresse mes lèvres et devient lumière intense dans cette nouvelle douce étreinte. Le temps enfin l'indifférence, incapable de franchir le seuil de mon aube sereine, et je n'ai plus besoin du silence. Je refleuris, dans l'univers sacré de tes baisers, pendant qu'en chauffrisson cueille des pétales de rose dans ce ciel infini allongé entre tes bras. Le mur de la solitude s'effondre, la distance se voile d'un mirage, et je sens ta main sur mon cœur, alors que la douceur de ton regard brûle comme une flamme qui illumine mon être. Le ciel de la nuit. Le ciel de la nuit veille sur mon silence, en éclairant les espaces de mon âme, inondée par une lune éblouissante qui promène sa lumière sur mon cœur. La douce ferveur de tes yeux m'embrasse et parcourt le village, sa beauté dormante. Des étoiles lumineuses effacent les peines dans les belles petites maisons, aussi belles qu'une toile mystérieuse s'ouvrant sur les toits endormis. La nuit étincelle et rêve sur les cimes des arbres que le vent effleure doucement dans leur océan de feuilles ondoyantes accrochées aux branches du bonheur. Les ombres bougent en silence et les bruits se taisent gentiment. Le temps se repose dans son alcôve obscure alors que tout ce qui vit émaille un spectacle d'astres fleuris. Mes pensées versent leur paix dans le calice des étoiles. Plus tard, un zéphyr léger viendra souffler sur mon sommeil serein quand le ciel de la nuit me prendra dans ses bras. Une fleur de mandarine. Son épouse chinoise brodait une rose à l'ombre d'un mandarinier. Ses mains de soie lui parlaient par des gestes en l'enivrant par de chauds baisers. Élégance et beauté franchissaient le seuil de son univers en lui laissant entrevoir les voies du ciel. Il était blanc comme la nuit de ses nuits d'enfant. Un oiseau chantait sur les berges du fleuve jaune qui coulait dans son âme. Il était touché par ce qui le caressait, sans savoir ce que c'était. Il posa sa tête sur la poitrine de son épouse pour s'endormir. Ses yeux brillaient sous ses cheveux d'argent et il oublia ses pensées au fond d'un puits. La rose qu'elle avait dessinée parfuma la source de son cœur pour le remercier de lui avoir fait connaître l'amour. Au lever du soleil, une hirondelle effleura sa main en s'envolant vers le nirvana, où un petit Bouddha l'attendait en souriant. Ainsi, il embrassa le paradis sans plus vieillir, sans bouger du songe-poème sorti d'un vase plein de fleurs. Une flèche d'or brisa le sablier trompeur en annonçant la fin de la nuit, et sa vie recommença sous une fleur de mandarine poussée dans son rêve poétique. Le vent de l'ouest. Le vent de l'ouest prend mes pensées par la main et les amène vers des mystères impénétrables, mais ils me révèlent leurs secrets en me parlant tout bas pour que je découvre ce qui est inconnu et les ailes de l'art. Ainsi, je m'envole au-dessus de cette terre sans regretter sa fausse magie. Et sur un traîneau de nuages, caressant la chevelure du soleil, je respire les poèmes de l'univers, leur fragrance immortelle. Je deviens la fibre sensible d'un nouveau scénario, caché aux yeux de l'aveugle égoïsme où tout est vanité, décoré avec les sortilèges du mensonge perpétuel. Le dernier poème que je vais lire s'intitule « Mon silence ». Mon silence est le témoin du changement après la saison de l'immobilité. Je quitte la souffrance et j'espère un autre jour de notre vie pour puiser l'amour à cet horizon empourpré. vêtu de ta voix harmonieuse. Ses mains fuient imperceptibles de la mort, qui simule des extases mystérieuses ou originales. La caresse d'un frisson berce mes sens. J'élude mon âge qui arpente l'imprévu essentiel dans cette solitude frénétique et rare. Le temps n'a plus de sens, ni sa raison d'être, quand l'âme et la paupière ne se taisent plus dans cette poétique qui regarde le ciel pour ne pas s'évanouir derrière les dernières lumières fragiles.
Merci Renato Villani. À bientôt.
Merci à vous aussi. Je vous remercie de m'avoir invité. À bientôt.
Aux éditions Trouba Vox vient de paraître Clamor, au vent des amours de Sandra. Hurtado Gross, soprano, qui présente son CD ainsi, clameur, pareil à celle des républicains espagnols se dressant le poing levé contre la dictature et l'oppression, comme mon grand-père, Juan, et se retrouvant captif dans des prisons froides et funestes pour avoir lutté pour la liberté, comme mon oncle, El Rubio, laissé pour mort une balle dans la tête et qui trouva refuge dans le creux d'un olivier, obligé de se cacher de ses bourreaux des mois durant. Clameur comme celle des amoureux maudits qui crient leur amour et trouvent le réconfort dans les bras l'un de l'autre, qui contre vent et marée, contre l'adversité, reste lié à jamais, reste lié jusque dans la tombe. Clameur comme le cri d'espoir d'un peuple fuyant la tyrannie, traversant la mer pour une vie meilleure, pour une vie nouvelle, cherchant une terre promise. Certains atteindront leurs rêves, les autres resteront à jamais dans les eaux profondes, laissant emporter au gré des vagues, au gré des vents, l'espoir qui faisait battre leur cœur et briller la lumière de leur vie. Elle chante et elle met en musique des poèmes de Federico Garcia Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández, Gerard Zucchetto, Aurelia Lasag, Fran Bardou. Voici un extrait de ce magnifique CD. Sandra Hurtado Ross chante un poème de Federico Garcia Lorca.
Oh,
Le temps conjugue les grains de la voix, parfois dans la douceur des choses, malgré des éclairs soudains. Je ne regarde plus en arrière, j'ai mis un voile sur le miroir des jours hésitants. J'écoute maintenant la promesse du vent. Il y a des mots malvenus qui dentellent des brumes et qui effilochent des nuages lapidaires. Le soleil tente de gober la solitude. L'écorce de vie se souvient des pluies et des rêves, du tumulte des choses et des lignes suspendues. Le ciel se froisse devant tant de paradoxes. Dans mon hangar de souvenirs, j'ai ouvert des malles pleines de feuilles de route et des cartes éphémériques. Encore la soif des mystères du monde. Je cherche dans le sens des choses la couleur de l'espérance, le pain fraternel, le secret des étreintes. J'ai écrit dans le cahier des erreurs les notes de musique brouillonne et les lettres d'amour épisodiques. La mémoire est en fuite sur des pages déchirées pour que n'apparaissent pas des traces sur mon visage et du linge décoloré sur un étendoir bancal. J'ai chassé depuis longtemps les mouches noires. Malgré les caprices de la lune et le tourbillon des mensonges, je garde l'odeur des fleurs qui ressemble à des fruits.
Sur les hauts plateaux, je manierai la tête pleine de vos baisers brûlants, éclos comme un nuage d'orage, quand sous la pluie gronde le monstre des tempêtes. De vos paroles tendres ne me reste que des syllabes qui bruissent. Une réjouissance blanchâtre émousse le toit du monde. Entends-tu ma voix par-delà le manteau neigeux, où chaque empreinte de mes pas ne cesse de me parler de toi. Ta voix résonne d'extravagance chimérique, j'ai soif d'espérance dans les fantaisies de mes caprices. Lorsque le premier spasme de Dieu avive la terre de sa puissance féroce, je brode mes songes, je morcelle mes envies pour les ranger dans le sein des saints, car je reviendrai, dès que j'aurai franchi la barrière rocheuse des hauts plateaux désertiques, mon visage apaisé resplendira comme un joyau ailé. Tu ne cesses de m'obséder, de rêveries extravagantes, où les images de nous deux teignent de préludes suprêmes, les zones pleines et pures de nos émois.
Dans mon encrier, j'ai laissé quelques mots dans l'attente que la douleur du temps prenne le soleil et le silence. Une pure musique dans la crinière des origines. Les certitudes sont parfois faites d'histoires complexes, dans le grand remous de l'intime parole. La nourriture est dans le jardin de l'âme. Le désir des pierres est de faire pousser l'herbe de la paix, quelle que soit la fièvre du désert au fond du cœur. L'horizon amènera toujours le vent et la poussière. Je dessine des taches sur l'autel de marbre veineux, entre le calice de vérité et la patène sanctifiante, pour éclairer la fibre ultime de la nuit.
L'air du soir est taquin. L'air du soir est taquin. Assise dans le grand champ, je compose toutes ces notes musicales qui trottent dans ma tête. Mon crayon s'enthousiasme sur les grains rosés d'un feuillet que j'ai choisi pour toi. Ta respiration m'enflamme d'une sensation irrésistible. Tes baisers brûlants courent sur mes nuits pour attiser le soleil du petit jour. La brume du matin tourbillonne dans une allégresse bondissante. J'irai d'un pas alerte sur les rives du fleuve, mes joues empourprées et le souffle haletant, disposer la nappe blanche pour fêter ton retour. Les baies courtiseront les fleurs mutines aux couleurs vives qui joncheront l'immaculé. L'alizé puisera mon chapeau qu'une main légère retiendra jalousement, juste à l'instant où tu effleureras avec passion la pommade de mon cou. Thank you.
Un grand merci à Michael qui a assuré parfaitement la technique. Et tous les lundis de 11h à 12h sur Radio FM plus 91 FM Montpellier, Traces de Lumière, rediffusion tous les lundis de 20h à 21h. Possibilité aussi d'écouter l'émission par internet www.radiofmplus.org. Le prochain rendez-vous de Traces de Lumière sera consacré à Poléluia, capitale de la douleur. Vous pouvez écouter des émissions déjà archivées en allant sur le site www.radiofmplus.org. Vous souhaite une semaine pleine de bonne lumière.